Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour, il est 13h à Melbourne, 5h du matin en France. Vous écoutez SBS French, votre programme en français sur Radio SBS. Je m'appelle Marianne Murat, nous allons passer à une heure ensemble, une heure à parler d'actualité, de sport, mais également, comme tous les samedis, la rétrospective. Léo Roussel nous emmène aujourd'hui en 1942 et nous fait revivre les heures les plus sombres de l'histoire avec la rafle du Veldiv. Mais d'abord, c'est le journal. Les titres de l'actualité de ce samedi 16 juillet, la rencontre controversée entre le président américain Joe Biden et le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman, 18 contrats signés sous l'ombre de l'affaire de l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi. La guerre en Ukraine et la localité de Vinnytsia qui compte ses morts, au moins 23 civils tués dans le bombardement de son centre-ville, la Russie assure avoir visé une cible militaire. La France s'apprête à commémorer un moment douloureux de son histoire, la rafle du Veldiv, c'était il y a 80 ans. 13 000 juifs ont été arrêtés, très peu reviendront des camps. Parmi eux, Arlette Testiller, alors âgée de 8 ans, nous l'entendrons dans ce journal. Et enfin, du sport, la 13e étape du Tour de France qui voit la victoire du Danois Mads Pedersen. Le Français, Romain Bardet, toujours 4e au classement général. Tous les détails dans le journal des sports après cette édition. Mais avant de développer ces titres, cette dernière information, on vient d'apprendre que le ministre australien Anthony Albanese a annoncé réinstaurer la prime Covid d'un montant de $750 et ce jusqu'à fin septembre. C'est une conséquence de la hausse des cas positifs de Covid. On l'écoute.
I said during the election campaign repeatedly that one of my themes was no one left behind. And indeed, I want to make sure that people aren't left behind, that vulnerable people are looked after. And that no one is faced with the unenviable choice of not being able to isolate properly without losing an income.
Et on le disait en titre, la visite plus que controversée de Joe Biden en Arabie Saoudite. L'objectif est de remettre à plat les relations entre les deux pays. Les États-Unis et le Royaume saoudien viennent donc de signer 18 accords stratégiques pour consolider leur coopération. Mais l'ombre de l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi imputé au prince héritier Mohammed bin Salman a plané sur cette rencontre. Martin Chabal.
C'est une grande table rectangulaire au milieu d'une salle du palais royal d'Al Salam qui a accueilli les Américains d'un côté et les Saoudiens d'un autre. Préoccupé par le prix du pétrole, Joe Biden a obtenu des Saoudiens une augmentation de leur production en or noir. Ils n'ont pas pour autant précisé le volume que cela représenterait. Les Américains en ont profité pour assurer leurs intérêts économiques dans la région. Ils ont trouvé un accord sur la 5G, privant ainsi la Chine d'un marché important. Les États-Unis investiront aussi dans les énergies solaires et nucléaires afin que le royaume saoudien atteigne ses objectifs en matière de changement climatique. Mais les relations entre le prince héritier d'Arabie Saoudite et le président des États-Unis ont capté l'attention lors de la prise de parole de ce dernier. Joe Biden a affirmé avoir réprimandé Mohammed bin Salman qu'il considère comme responsable sur le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi. Le Saoudien aurait nié toute responsabilité. Cette décision de rencontrer le prince héritier ne passe toujours pas pour certains militants américains. La femme du défunt journaliste a fustigé sur Twitter le président des États-Unis qui aurait, je cite, « le sang des prochaines victimes de Mohammed bin Salman sur ses mains ».
Et justement, Joe Biden a répondu à la question d'un journaliste qui lui demandait quelle était sa réaction face à ce tweet lui disant qu'il avait le sang des victimes sur les mains. On écoute Joe Biden.
We just heard from Jamal Khashoggi's wife who said, after this visit, the blood of MBS's next victim is on your hands. What do you say to Mrs. Khashoggi?
I'm sorry she feels that way. I was straightforward back then. I was straightforward today. I came here to meet with the GCC and nine nations to deal with the security and the needs of the free world, and particularly the United States, and not leave a vacuum here.
Cette rencontre marque un revirement de taille dans la politique diplomatique des États-Unis. Joe Biden avait annoncé vouloir faire de l'Arabie Saoudite un État paria après l'assassinat du journaliste. C'est donc une conséquence de l'inflation du pétrole depuis le début de la guerre en Ukraine. C'est en tout cas ce que pense le directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen, Hasni Abidi.
La guerre en Ukraine a été... À mon avis, le cadeau inespéré aussi pour Mohamed Ben Salman. Il y avait plusieurs conseillers au sein de la Maison Blanche, proches du bureau de conseil pour la sécurité, qui ont réussi à convaincre, notamment ceux qui s'occupent du pétrole, qui s'occupent de l'énergie, qui s'occupent du Moyen-Orient et du Golfe, qui ont convaincu le président Biden d'opérer ce revirement pour dire qu'en fait, aujourd'hui, tout plaide en faveur plutôt d'une normalisation des relations avec l'Arabie Saoudite. Tout passe par Riyad, à la fois les relations avec les pays du Golfe, la question de pétrole qui est à mon avis plus importante, elle est déterminante. Elle est déterminante à la fois pour les élections mi-mandat. Si Biden perd mi-mandat, ça veut dire que 2024, c'est non seulement c'est perdu pour lui, mais c'est perdu pour les démocrates. Il faut absolument absorber l'inflation. L'Arabie Saoudite est un grand secours en matière économique pour les États-Unis surtout. C'est la seule puissance en mesure aujourd'hui d'ouvrir son robinet et de stabiliser le marché pétrolier.
La colère en Ukraine après le bombardement de Vinnytsia, au moins 23 civils ont été tués après des frappes de missiles contre le centre de cette ville, pourtant éloignée de la ligne de front. Le ministre russe de la Défense affirme avoir visé une réunion du commandement ukrainien avec des fournisseurs d'armes dans une maison des officiers. À Kiev, la correspondance de Stéphane Suan, RFI.
Est-ce que les officiers russes ont vu juste sur une carte Google l'inscription « Maison des officiers » et décidé d'y lancer un missile de croisière ? Voilà la question absurde que se posent de nombreux Ukrainiens après la frappe dramatique qui a détruit ce bâtiment du centre-ville de Vinnytsia et touché une cinquantaine d'immeubles alentour. Le ministère de la Défense russe affirme qu'une partie du commandement des forces aériennes de Kiev a été éliminée dans la frappe, sauf qu'aucun élément sur place ne corrobore cette version. En effet, la maison des officiers a été reconvertie depuis de nombreuses années en centre culturel et auditoire de concert, où ce week-end devait se produire la chanteuse Roxolana, candidate malheureuse au dernier concours Eurovision de la chanson. D'ailleurs, un de ses techniciens, arrivé en avance sur le site, a été tué dans le bombardement. À d'autres niveaux, le bâtiment abritait des bureaux, des petits commerces, des échoppes de services, comme c'est souvent le cas dans ces vieux immeubles administratifs de l'époque soviétique. Enfin, un centre médical spécialisé dans les soins périnataux et dans la petite enfance était installé au pied du bâtiment, lui-même jouxtant un des axes les plus passants de Vinnytsia. Il s'agit donc, ni plus ni moins, du plus grave bombardement sur une zone civile loin des lignes de front depuis le début de la guerre.
Direction le Royaume-Uni, où le pays se cherche un nouveau Premier ministre. Les cinq candidats toujours en lice se sont affrontés lors d'un débat télévisé. La ministre des Affaires étrangères, Liz Truss, a vanté son expérience internationale et s'est engagée à adopter une ligne dure avec l'Union européenne sur tout ce qui concerne les conflits commerciaux post-Brexit. De son côté, l'ex-ministre des Finances, Rishi Sunak, est considéré comme le grand favori. Mais lors du débat, le député Tom Tugendhat lui a reproché son implication dans le scandale du Partygate, forçant Rishi Sunak à présenter ses excuses.
Of course there's a problem with people being asked to obey rules that those who make them don't obey. Of course that's a problem.
He's talking about you, Rishi Sunak. I mean, explain why it's okay to have a prime minister who has been found to break the COVID laws.
Yeah, it was a mistake and I apologized for it at the time and I apologize for it again. I wish it had never happened.
Au Sri Lanka, le pouvoir a changé de main. Le Premier ministre Ranil Wickremesinghe a été investi président par intérim. Il a prêté serment peu après la démission officielle du chef d'État déchu, Gotabaya Rajapakse. Le Parlement sri-lankais doit se réunir la semaine prochaine pour élire le nouveau président de cette île au large de l'Inde. Mais pour les habitants qui protestent pour ce changement de régime depuis des mois, le soulagement n'est pas encore au rendez-vous. La crise économique fait rage, le pétrole se fait rare et les denrées alimentaires sont de plus en plus chères. On écoute ce manifestant.
Normal food prices got high and after the May, the fuel prices went up. With that fuel prices increase of fuel price, then all the transportation and the transportation prices came to very high.
On prend la direction de la France pour marquer l'anniversaire d'une date parmi les plus sombres de l'histoire. C'était il y a 80 ans, la rafle du Vel'd'Hiv. Les 16 et 17 juillet 1942, sur ordre du gouvernement de Vichy, les policiers français ont arrêté près de 13 000 juifs. Juste à Paris, 8 000 d'entre eux, principalement des femmes et des enfants, seront enfermés dans le vélodrome d'hiver avant d'être déportés dans des camps. De cette rafle, il n'y aura qu'une centaine de survivants. Parmi eux, Arlette Testiller. À l'époque, elle s'appelait Arlette Rayman, elle avait 8 ans. Depuis, elle raconte inlassablement son histoire dans les écoles. Nathanaël Vitran l'a rencontrée pour Radio France Internationale.
Dans la nuit du 16 au 17 juillet, j'ai 8 ans et demi. Et il est 6 heures du matin, ma sœur dort encore, maman se lève, frappe à la porte. Des coups violents, c'est la police. Donc elle ouvre et là je vois deux policiers avec une liste à la main. On nous a embarqués comme des voleuses. Les autobus nous ont dirigés vers le vélodrome d'hiver, où je ne connaissais pas. Et on est arrivé devant ce bâtiment en fer, que des policiers. J'ai jamais vu d'Allemands, vous savez, monsieur, jamais. Je n'ai vu que des policiers. On nous a déversés dans ce vélodrome d'hiver. C'était dantesque. Les gens pleuraient, les gens criaient, les enfants se sauvaient. Il y avait des grabataires, des estropiés, des gens avec des béquilles, des femmes enceintes. Puis jour et nuit, les autobus déversaient les gens.
Pourquoi est-ce que c'est si important de la répéter, cette histoire?
D'abord, je la raconte parce que les enseignants le demandent. Mais si je le fais surtout, c'est pas pour moi, c'est pour ceux qui ne sont pas revenus. Parce que si on les oublie, ils vont mourir une deuxième fois.
La rafle du Vel'd'Hiv, c'est aussi le thème de la rétrospective du jour signée Léo Roussel, à écouter un petit peu plus tard dans l'émission. Et sans transition aucune, un point sur la météo de cet après-midi. Il y a des averses à Perth, 19 degrés, 16 degrés à Adélaïde, 13 à Melbourne, 13 degrés également à Hobart. C'est nuageux à Canberra, 10 degrés, nuageux également à Sydney, 16 degrés, du soleil à Brisbane, 21 degrés, des averses à Cairns, 26 degrés et enfin grand soleil à Darwin, il fait 28 degrés. Le rappel des titres, la prime Covid réinstaurée jusqu'à fin septembre pour un montant de $750. Le président Joe Biden en visite en Arabie Saoudite pour aplatir les relations entre les États-Unis et le Royaume. La guerre en Ukraine et au moins 23 civils tués dans le bombardement du centre-ville de Vinnytsia, localité pourtant éloignée de la ligne du front. Et la France qui s'apprête à commémorer l'une des dates les plus sombres de son histoire, la rafle du Vel'd'Hiv, c'était il y a 80 ans.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Ce n'est bien sûr pas la fin de cette émission. Il nous reste encore 47 minutes à passer ensemble. Et tout de suite, c'est le journal des sports. Mesdames, messieurs, votre journal des sports de ce samedi 15 juillet. On commence bien sûr avec du cyclisme et la 13e étape du Tour de France hier entre le Bourdoisan et Saint-Étienne. 193 km qui auraient dû voir les sprinteurs se disputer la victoire. Mais au final, c'est une échappée qu'il a emportée avec l'ancien champion du monde Mads Pedersen. On l'écoute.
It's incredible to finally take a win. I knew the shape was really good and yeah, I definitely missed out the opportunities in the first week, so yeah, the last 2 weeks here, it's not a lot of chances for a guy like me. So to take the chance today and get the award is really, it's really nice. Not only for me, but for the whole team. We came here with riders only for stages and now we have one. So it's such a relief.
Du côté australien, l'espoir était pour le sprinter Caleb Ewan, mais une chute à quelques kilomètres de l'arrivée a anéanti tout espoir de victoire. On écoute la déception du coureur de l'équipe Lotto Soudal.
I felt really good actually, and yeah, that's why we committed two guys to try to control that breakaway, and they're doing a really good job. The break never got too far ahead, and then yeah, I don't know what happened in the corner. They just slammed on in the middle of the corner, and then I had nowhere to go but into the back of the guy in front of me.
Le maillot jaune reste sur les épaules du Danois Jonas Vingegaard devant le Slovène Tadej Pogacar, le Français Romain Bardet et lui au pied du podium. La 14e étape aura lieu ce soir, direction l'aérodrome de Mende, une étape à suivre en direct sur SBS où nous retrouverons notre collègue Christophe Mallet qui suit la grande boucle. Hier, il est allé à la rencontre du double vainqueur du Tour de France Bernard Thévenet. Interview.
Vous écoutez le français sur Radio SBS.
Bernard Thévenet, c'est un plaisir de vous parler, c'est un plaisir de vous voir sur le Tour de France. C'est une course qui vous tient particulièrement à cœur, vous l'avez gagnée deux fois, notamment l'année de ma naissance, 75.
Oui, ça me tient particulièrement à cœur, c'est mon 50e cette année, tout compris. Donc ça veut dire que j'ai toujours la même passion. Je suis toujours intéressé par la course, toujours intéressé par les à côté du Tour aussi. Cette foule, cette passion, cette bonne humeur aussi des gens au bord de la route, à ces sourires tout au long de la route, c'est quelque chose que je ne louperai pour rien au monde.
Ah, c'est intéressant parce que à la fois le Tour de France s'est transformé complètement, c'est devenu une machine, ça a changé complètement, c'est une machine de guerre. Par contre, vous nous parlez du sourire des enfants, du regard des gens sur la route, ça n'a pas changé.
Non, ça n'a pas changé. Évidemment, il a fallu que le Tour de France se structure parce que il y a plus de, comment dire, au point de vue sécurité notamment, il y a plus de demandes, il faut faire plus attention, il y a beaucoup plus de presse. Donc ça fait beaucoup plus de personnes autour du Tour, autour de la course qu'auparavant. Et le Tour de France a dû s'adapter, mais fort heureusement, je pense que la chance du Tour de France, c'est qu'il a toujours eu des directeurs qui ont compris qu'il fallait anticiper. Et ça s'est bien passé jusque-là.
Christian Prudhomme, il est juste incroyable en fait.
Oui, c'est quelqu'un qui est vraiment très très bien, quelqu'un qui aime viscéralement et les coureurs et le Tour de France. Donc après, c'est certainement plus facile pour lui. C'est toujours plus facile quand on est passionné de voir les problèmes en amont.
Si on parle juste de vélo un tout petit peu, aujourd'hui on parle d'une renaissance, d'un nouveau style de cyclisme. Pogacar, Van Aert, on parle beaucoup de l'époque Merckx. Vous l'avez connu, vous, Eddy Merckx. Est-ce que vous pouvez comparer vraiment, est-ce qu'on peut vraiment comparer, est-ce qu'on peut se permettre, nous, journalistes, de comparer cette époque avec votre époque?
Les époques ne sont pas comparables. Parce qu'il y a tellement de choses qui sont différentes. Par contre, on peut, en quelque sorte, le style, la façon de courir, de Pogacar ou même de Van Aert, mais surtout de Vingegaard, c'est un petit peu ce qu'on connaissait il y a 40 ou 50 ans. Ces dernières années, on voyait plus les équipes rouler en tête, les équipes écraser un peu la course, alors que là, depuis avant-hier et hier, on a vraiment eu des duels. Il y a eu vraiment des duels et des attaques par l'avant. Avant, on voyait plutôt ça roulait, c'était un rouleau compresseur qui éliminait par l'arrière. Maintenant, on retrouve des attaques par l'avant, évidemment. C'était quand même beaucoup plus enthousiasmant de voir cette course-là. Et ça fait un moment, je pense qu'on n'avait pas vu dans le Tour de France deux leaders se donner autant, se donner autant de coups. Pourtant, apparemment, ils sont très amis, ils serrent la main à l'arrivée. Mais pendant la course, ils ne se font aucun cadeau. Et ça, c'est très, très beau à voir. C'est vraiment, moi, c'est ce que j'aime. Je retrouve le cyclisme, de l'état d'esprit du cyclisme d'antan.
Allez, dernière question. La question à 1 million de dollars. Qui c'est qui va gagner ce tour-là? Et comment ça risque de se passer avec votre expérience?
Alors, c'est le meilleur qui va gagner, j'espère. Le meilleur est celui qui aura la meilleure équipe. Et malheureusement, pour Pogacar, pour l'instant, il est loin d'avoir une équipe qui est à la hauteur de celle des Jumbo. Donc, je pense que Vingegaard a un gros avantage. Mais non, est-ce qu'il est vraiment au même niveau que Pogacar? Ça, on ne sait pas. C'est fort heureusement, c'est l'incertitude. Et j'espère que cette incertitude va durer jusqu'au dernier contre-la-montre.
Absolument, c'est la beauté du Tour. Merci, Bernard Thévenet.
Je vous en prie.
Deuxième jour des mondiaux d'athlétisme qui ont débuté hier et vont se poursuivre jusqu'au 24 juillet. Pour la première fois de son histoire, les États-Unis accueillent la compétition. Elle se déroule dans l'Oregon, dans la petite ville de Eugene précisément. Reportage de Frédéric Suteau avec les relances de la rédaction de Radio France Internationale.
Aussi étonnant que cela puisse paraître, hein, on a eu sur le sol américain plusieurs fois les Jeux Olympiques et l'Amérique regorge de grands noms qui ont marqué l'histoire de l'athlétisme. Jesse Owens, Carl Lewis, Allyson Felix qui est encore là aujourd'hui. Mais jusque-là, effectivement, jamais les championnats du monde d'athlètes qui existent depuis 1983 ne s'étaient arrêtés aux States, comme on dit. Il était temps, Sébastien Coe, président de World Athletics, la fédération internationale d'athlètes.
Je ne dirais pas que c'est assez enthousiasmant d'être là, je dirais que c'est super enthousiasmant. Je suis vraiment content que ces mondiaux aient lieu aux États-Unis. Vous savez, une part importante de ma carrière d'athlète a eu lieu ici, sur le sol américain. L'athlétisme est un sport majeur pour les Américains, le sport numéro un dans les universités. Aux États-Unis, vous avez 50 millions de personnes qui courent, qui font du jogging. C'est tout ce processus que nous voulons accompagner, et ces championnats du monde sont aussi une étape vers les Jeux de 2028 qui auront lieu à Los Angeles.
Los Angeles, il connaît bien Sébastien Coe, britannique, champion olympique du 1500 mètres en 84. Après Moscou en 80, il est à la tête de l'athlétisme mondial depuis 2015.
Alors on le disait Frédéric, ces championnats du monde, ils se déroulent à Eugene. C'est un peu la Mecque de l'athlétisme.
Oui, Eugene, entouré de verdure, de montagnes, 175 000 habitants sur la côte ouest des États-Unis. Eugene, la patrie de Nike, la marque de chaussures, marque de sport mondialement connue. Un stade de 20 000 places, tout dédié à l'athlée. Écoutez ce qu'en dit Ninon Chapelle, la perchiste française en lice dès ce vendredi. Elle était déjà venue en 2014 pour les championnats du monde junior.
Avant, il y avait deux petites tribunes, dont une petite tribune en bois. C'est vrai que c'était un petit stade, mais c'était impressionnant parce que déjà chez les juniors, ce stade était blindé. Avec beaucoup d'engouement, les gens étaient de vrais supporters, quoi. Vraiment, il n'y a pas une discipline où dès qu'il y a un mec qui lève les bras et qui demande la clap, bah, c'est parti, quoi. C'est assez impressionnant pour nous parce que c'est vrai qu'en France, il faut vraiment que ce soit des gros événements pour avoir ce sentiment-là, et je pense que ça sera le cas pour le coup pour les Jeux. Mais c'est vrai qu'ici, il y avait vraiment cette atmosphère particulière déjà chez les jeunes, donc je pense que là, ils ont agrandi la tribune, c'est un stade tout neuf, l'ambiance va être folle. Ouais.
Ninon Chapelle avec Olivier Pron. Alors Frédéric, on aura l'occasion ces prochains jours de découvrir et de parler des stars de ces championnats du monde, les sprinteurs américains et jamaïcains notamment. Mais ce qui fait beaucoup parler à quelques heures du début de ces mondiaux, eh bien, c'est la question des visas.
Oui, athlète de haut niveau ou pas facile d'obtenir ce visa américain pour rallier les États-Unis quand vous venez des pays africains notamment. Certains qualifiés ne seront donc pas là, faute de visa. D'autres espèrent arriver à temps, comme Ferdinand Omanyala, le sprinteur kényan avec le 100 mètres qui démarre dès ce vendredi. Il n'a eu son visa à Nairobi au Kenya qu'hier, jeudi. Une situation regrettable, nous dit Noélie Yarigo, la coureuse de 800 mètres béninoise.
Bon, c'est vraiment dommage pour ce qui se passe en ce moment parce que beaucoup d'athlètes ne vont pas pouvoir venir parce qu'ils n'ont pas eu la chance d'obtenir le visa. Moi, au moins, je l'ai eu assez rapidement parce que j'ai un passeport français et je suis contente d'être là. Donc voilà, je suis prête pour la compétition.
Le 800 mètres, vous êtes une vieille routarde du 800 mètres depuis le temps. Vous avez quoi comme objectif ?
Passer le maximum de tours. C'est vrai, je suis comme le vin.
Vous bonifiez avec le temps ?
Exactement. Physiquement, je suis bien, donc je croise les doigts pour que ça passe. Et je veux placer la barre haute.
En football, l'Euro féminin se poursuit et forte de leur succès contre la Belgique 2-1, les Bleus sont d'ores et déjà qualifiés pour les quarts de finale. Les Françaises sont assurées de terminer première du groupe D avant même leur dernier match de poule contre l'Islande. On écoute la sélectionneuse de l'équipe de France, Corinne Diacre. Elle s'exprimait à l'issue de la victoire contre les joueuses belges.
Vous savez, les matchs se suivent et ne se ressemblent, on dit souvent pas, mais là j'ai envie de dire jamais même. Donc l'efficacité que l'on a eue contre l'Italie, on l'a eu un petit peu moins eu ce soir. Mais malgré tout, on a quand même mis un but de plus que notre adversaire, ce qui nous permet de remporter ce match et de se qualifier et également de finir première du groupe. On les avait très bien analysés. J'avais déjà dit hier en conférence de presse que cette équipe avait énormément de talent, notamment offensif. Et je crois qu'on l'a vu encore ce soir. Le coach Yves, que je connais très bien, a même changé un peu ses plans. Il m'a réservé quelques surprises, mais que l'on a tant bien que mal réussi à contrecarrer, mais très sincèrement, il y a de très très bonnes joueuses dans cette équipe.
La Belgique jouera, elle, sa qualification contre l'Italie. Football toujours avec les quarts de finale de la CAN féminine au Maroc. Les Camerounaises chutent encore face aux Nigérianes, 1-0. Les Nigérianes qui valident donc leur billet pour les demi-finales, Antoine Grenier.
Défaite 1-0 des Lions Indomptables qui en 15 matchs n'ont gagné qu'une seule fois face aux Super Falcons. Une malédiction qui se poursuit donc cette année et envoie les Nigérianes en demi-finale où elles affronteront le Maroc, pays hôte de la compétition. Le Cameroun devra de son côté battre le Botswana dimanche en match de classement pour s'offrir le droit de participer à un tournoi qualificatif pour la Coupe du Monde 2023. L'autre demi-finale de la CAN, prévue lundi, opposera la Zambie à l'Afrique du Sud, tombeuse hier soir de la Tunisie 1-0 à Rabat.
On en vient aux suites des incidents du Stade de France en mai dernier. Le Sénat a rendu public son rapport. Il pointe du doigt les défaillances des autorités françaises et il accuse le ministre de l'Intérieur et la préfecture de police. On écoute Laurent Lafon, il est le président de la commission culture du Sénat.
Bon, d'abord par rapport aux supporters de Liverpool et aussi du Real de Madrid. Évidemment, nous l'avons fait à plusieurs reprises et nous le refaisons, nous présentons nos excuses, nos regrets et nos excuses par rapport à ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que c'était extrêmement important à nos yeux et à l'ensemble des membres des deux commissions qu'ils soient entendus et qu'ils s'expriment sur ce qu'ils ont vécu au-delà du fait qu'ils aient vraiment été victimes. On ne le dit peut-être pas assez, mais derrière ces événements, il y a aussi un enjeu diplomatique, singulièrement par rapport à l'Angleterre. Alors, ça n'est pas nos compétences, mais dans l'expression nécessaire du président de la République ou du Premier ministre, je crois qu'ils doivent aussi intégrer cette dimension-là. Il me semble que c'est important qu'il y ait cadeau, mais il nous semble que, effectivement, pour toutes les raisons qu'évoquait le président Buffet, et compte tenu de l'importance des Jeux Olympiques, il est indispensable que les plus hautes autorités s'expriment pour redonner confiance dans notre capacité à organiser ces JO. Personnellement, nous n'en doutons pas.
Et voilà, c'était votre journal des sports de ce samedi 15 juillet. C'était un extrait de la chanson « Mon amour » chantée et interprétée par le chanteur belge Stromae. C'est l'heure de la rétrospective et comme chaque samedi, on voyage aujourd'hui au 16 juillet 1942 en France sous l'occupation. Retour sur la rafle du Veldiv avec Léo Roussel. Nous sommes le 16 juillet et comme chaque samedi, c'est l'heure de notre rétrospective. Aujourd'hui, nous revenons en 1942 en France sous l'occupation. Le pays connaît alors un des moments les plus tragiques de son histoire, l'un des plus sombres. À Paris, 13 000 juifs étaient arrêtés et pour la majeure partie parqués dans l'ancien vélodrome d'hiver, dans l'attente d'un transfert vers des camps de déportation puis d'extermination. 80 ans plus tard, retour sur la rafle du Veldiv avec Léo Roussel et des archives sonores de l'Institut National de l'Audiovisuel.
Des autobus parisiens, des fourgons de la police française, stationnés en ce 16 juillet 1942 devant le vélodrome d'hiver. Ce matin-là, la plus grande salle de sport de Paris est devenue le centre de détention des juifs de la capitale.
Cela fait 80 ans ce samedi, 80 années plus tard, et rien jamais ne doit être oublié de cet épisode douloureux de l'histoire de France. Le 16 juillet 1942, vous venez de l'entendre sur cet extrait de documentaire diffusé sur Antenne 2 en 1995. Le vélodrome d'hiver devenait l'antichambre de la mort pour plus de 8000 juifs de Paris. Dès 4h ce matin du 16 juillet 1942, la France, alors sous l'occupation allemande et gouvernée par le régime de Vichy, va voir la plus importante opération de police jamais organisée à Paris. Une opération d'arrestation massive d'habitants juifs de la capitale, la plus grande rafle aussi jamais organisée jusqu'alors, qui va voir hommes, mais aussi femmes et enfants, être chassés de leur domicile, arrêtés et parqués au vélodrome d'hiver au cœur de Paris. C'est ce qu'on va appeler par la suite plus communément la rafle du Veldiv, une opération nommée à l'époque « Vent printanier ». la préparation de cette rafle, son organisation et puis sa réalisation. Tout est l'œuvre de la France, d'un régime de Vichy qui collabore avec l'Allemagne nazie, certes, mais ceux qui ont pu témoigner l'ont souvent rappelé. Ce ne sont pas des soldats allemands qui sont venus les chercher pour les parquer au vélodrome d'hiver, mais bien des policiers et des gendarmes français répondant aux ordres de Vichy. Au total, sur deux jours, les 16 et 17 juillet 1942, ce sont plus de 13 000 juifs qui seront raflés. Une opération sans précédent, comme le rappelle ce document issu des archives de l'INA.
Alors, le 16 juillet a été différent. Jusque-là, nous savions que des rafles avaient lieu. Il y en avait eu d'importantes, avec des milliers d'arrestations, mais ça concernait surtout des hommes. Et cette fois-ci, il semble bien que sur les 28 000 noms qui ont été fichés pour cette grande rafle, il n'y avait pas de distinction du tout. Tout le monde devait être raflé et emmené, nous l'avons su par la suite, au vélodrome d'hiver où la plupart d'entre eux avaient été parqués. Il y avait 4000 enfants parmi eux.
Toutes ces personnes sont donc emmenées au vélodrome. Il fait chaud, il y a des enfants très jeunes, des personnes malades, témoignent certains. Pendant 5 jours et 5 nuits, 8160 juifs seront parqués. Il n'y a pas de nourriture, pas d'eau, difficile de croire en de pires conditions de détention. Et pourtant, le vélodrome d'hiver n'est que la première étape d'un long trajet. La déportation, d'abord vers les camps de Drancy, Beaune-la-Rolande et Pithiviers. Puis les camps de concentration et d'extermination, notamment celui d'Auschwitz-Birkenau en Pologne. Pendant les 5 jours au vélodrome d'hiver, certains parviennent à s'échapper, mais ils sont peu. Le Veldiv, c'est une rafle parmi toutes celles qui auront lieu encore après, mais elle représente à elle seule déjà un grand nombre parmi les 76 000 juifs de France qui ont été déportés vers les camps d'extermination, dont seuls 2500 sont finalement revenus. La rafle du Veldiv est un symbole qui marque la participation de l'État français du régime de Vichy dans la Shoah, aussi appelée solution finale qui visait l'extermination de tous les juifs d'Europe. Pendant de nombreuses années, les présidents de la République française ont refusé de reconnaître cette participation de la France à ce massacre, François Mitterrand préférant notamment l'attribuer uniquement au gouvernement de l'État français, qui caractérise le régime de Vichy et non à la République française. Il faudra attendre les commémorations de la rafle du Veldiv de 1995 pour que Jacques Chirac reconnaisse la responsabilité de la France dans la déportation des Juifs avec ces mots.
Ces heures noires souillent à jamais notre histoire et sont une injure à notre passé et à nos traditions. Oui, la folie criminelle de l'occupant a été, chacun le sait, secondée par des Français, secondée par l'État français.
Aujourd'hui, la rafle du Veldiv a 80 ans. Des commémorations sont prévues ce week-end en France. Ce dimanche matin, à Paris, devant le monument des martyrs juifs du Vélodrome d'hiver, quai de Grenelle, dans le 15e arrondissement de Paris, en présence de la Première ministre Elisabeth Borne, à proximité de l'emplacement du Vélodrome d'hiver qui, lui, a été détruit en 1959. Le président de la République, Emmanuel Macron, prononcera lui un discours à Pithiviers dans le Loiret ce dimanche, où un nouveau musée mémorial sera inauguré dans l'ancienne gare, d'où partaient les convois de juifs français à destination des camps.
De dire à ses amis, de lui foutre la paix, puis elle m'avait dit, viens. Et moi je disparais.
Peut-être avez-vous reconnu sa voix emblématique, c'était la chanson « Émilie danser » de Mickey 3D. Dans l'émission de jeudi, on vous parlait de la fête nationale française, le Bastide, célébrée le 14 juillet. Eh bien, les festivités continuent, notamment aujourd'hui à Melbourne. Durant deux jours, aujourd'hui et demain, à Fête Square, il y a plein de stands. Véronique, la présidente du Bastide de Melbourne, nous dévoile tout le programme interview.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
À l'occasion du 14 juillet, nous fêtons le Bastille Day à Melbourne. Véronique, la présidente de Bastille Day, bonjour.
Bonjour.
Alors, pouvez-vous me dire ce que vous organisez pendant ces deux jours à Federation Square à Melbourne à l'occasion du Bastille Day?
Donc, nous avons une série d'événements en avance qui nous préparent au gros de l'événement qui aura lieu samedi et dimanche à Federation Square.
Alors pour les visiteurs, qu'est-ce qu'ils peuvent retrouver lors de cet événement?
Donc samedi et dimanche, nous aurons le marché qui présente le marché français qui présente de nombreux commerces et de nombreuses spécialités françaises, que ce soit gastronomique ou culturelle, la mode bien sûr, des fleurs, on a également des bijoux, donc une petite idée de ce qu'est la France d'un point de vue artisanal et gastronomique. Et puis, il y a également, en même temps que ce marché, de nombreuses choses qui vont être produites sur la scène. Nous avons des chanteurs, nous avons des musiciens, nous avons également des conférences le dimanche.
Et quel type de conférences?
Donc, nous avons appelé ces conférences les Lumières, les conférences des Lumières. Nous avons 4 conférences bleues, blanc, rouge et vert. Donc aujourd'hui, c'était la première conférence bleue au sujet de la médecine, des traitements pharmaceutiques, la collaboration entre la France et l'Australie, donc un sujet très sérieux et d'actualité, notamment avec le cancer, autour du cancer. Et demain, ce sera autour du changement climatique sur place à Federation Square. Et dimanche, donc, ce sera les conférences blanc et rouge. Le blanc, c'est autour de l'art. Nous aurons Miranda Wallis du NGV qui présentera l'exposition Picasso, parce qu'aujourd'hui, je vais être absolument autoritaire et décider que Picasso est français. Et conférence rouge, pour terminer, conférence sur le thème de la révolution, avec un enseignant de l'Université de Melbourne qui va nous parler du temps de la révolution. C'est mais bien. En jouant sur le mot temps, donc comment le temps est organisé, le calendrier révolutionnaire par exemple, et également donc, le temps de la révolution, ce qui s'est passé à cette période.
Alors durant ces plusieurs jours du Bastille Day qui se déroule à Fed Square, d'ailleurs juste en bas de SBS Radio, vous avez différents stands. On trouve beaucoup justement ce qu'aiment beaucoup les Australiens, beaucoup de culinaire français. Alors quel type de stand culinaire français on va pouvoir retrouver par exemple?
Alors bien sûr des crêpes.
Le classique.
Le classique, et l'autre classique c'est la raclette. Donc des crêpes, du fromage et également du vin, des boissons françaises. Nous organisons d'ailleurs des masterclass autour du vin et du fromage, comment assortir vin et fromage, et puis comment préparer des cocktails avec des produits français, comme du gin, des gins français, et également du cognac.
Puisqu'il y aura plein de stands.
Exactement.
J'ai eu quelques échos, notamment sur des stands de fromage, voilà. Qui sont assez exceptionnels. Et on parlait également des événements qui ont lieu sur scène, donc il y a ces fameuses conférences, il y a ces spectacles. Quel type de spectacle on va pouvoir retrouver?
Alors nous avons une chanteuse comme Moogie qui sera présente, on a une chorale, La La La, une chorale française, on a un groupe qui s'appelle Vive la différence, mais on a également l'armée qui va se produire le samedi. J'en oublie, mais nous avons de quoi satisfaire tout le monde d'un point de vue musical.
Alors chaque année, c'est un énorme succès. Malheureusement, avec le Covid, il y a eu 2 ans sans Bastille Day à Melbourne. Vous savez combien de visiteurs à peu près il y a à chaque fois?
Je crois que la dernière fois que nous l'avons organisé en 2019, il y avait environ 16 000 visiteurs qui sont passés par nos stands. Cette année, nous aimerions bien en avoir autant.
Voire même voilà. Un peu plus.
Voilà, oui. Mais tout va dépendre de la météo. J'espère qu'elle nous sera favorable.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Délaisse-moi, n'y va pas par 4 chemins. Tu peux brûler le cours de ta battue de feu, nos échanges.
Rend l'amour Benjamin Biolay. On part à Sydney maintenant, où tous les 15 jours, Solveig organise un marché typiquement français en banlieue de la ville. Une interview signée Thomas Mercier.
C'est un rendez-vous bien connu des habitants de Sydney. Tous les 15 jours, ils font un voyage direct en France tout en restant en Australie. Solveig est à l'origine de ce marché que les Australiens ont la chance de découvrir tous les 15 jours. Bonjour Solveig.
Bonjour Thomas.
Alors, quoi consiste votre marché? Est-ce que, par exemple, on retrouve beaucoup de produits français ou est-ce que c'est un mélange de produits australiens, produits français? Racontez-moi un peu ce qu'est votre marché.
Alors, le marché, en fait, c'est the best of Australia and France. Donc, je voulais rassembler au sein du marché le meilleur des deux pays, de la France et de l'Australie. Donc, on a des producteurs australiens qui viennent avec des fruits, des légumes, des œufs bio, du miel. Voilà, donc vraiment des produits frais que l'on peut trouver sur des marchés traditionnellement. Donc ça, c'est direct de la ferme ou de producteurs locaux ou de gens qui font leur miel, par exemple. Et ensuite, j'ai apporté toute la gastronomie française que l'on peut trouver aussi sur un marché. Donc là, j'ai vraiment rassemblé une très grande sélection de produits français. Sachant que aujourd'hui sur les marchés dans toute l'Australie, on propose la plus grande sélection de produits français dans toute l'Australie.
Alors quel type de produits, par exemple, quel type de produits français on peut retrouver sur votre marché?
Alors on a des crêpes, des croque-monsieur, on a quatre boulangers français qui font tous des produits différents. Donc j'ai un boulanger qui est plutôt spécialisé dans les tartes aux fraises, les flans, les quiches. J'en ai un autre qui fait des baguettes, du pain et tout ce qui est croissant, pain au chocolat, chouquette. J'ai Sacrebleu qui, eux, ils sont spécialisés en cannelé, madeleine, palmier et rocher à la noix de coco. J'ai un centre qui fait de la pâtisserie, mais gluten-free, parce que c'est vrai qu'il y a une grosse demande pour des produits gluten-free. Et j'ai également un vendeur qui se déplace de Newcastle, donc qui est à 2 heures de Sydney, et qui, lui, est spécialisé en choux, éclairs et macarons. Alors, on a aussi du fromage. Le vendeur de fromage, il a une sélection de 40 fromages français. Donc, lui, il est toujours débordé. On a du saucisson, pâté, rillettes, cornichons, des olives provençales, du vin français, des bières, du cidre français. On a des confitures françaises, on a des produits à base de truffes aussi. Donc là, c'est une personne qui vient de Canberra, Joël, qui a une ferme truffière et qui vient 2 fois par mois avec des truffes fraîches. Elle fait des brioches à la truffe, elle fait de la moutarde, des huiles d'olive à base de truffes. Et puis, on a également un petit supermarché. Là, on travaille avec nos amis de France Atome qui sont à Melbourne. Et donc là, on a tous les produits, les sirops, les bonbons, les fraises Tagada, les petits écoliers, les BN. Exactement.
Et vous m'expliquez justement qu'en termes de public, vous aviez plus d'Australiens que de Français.
Alors, notre démographie, ouais, le public, ça va être, je dirais, 70% d'Australiens francophiles. Donc, c'est vraiment des Australiens qui adorent la France, qui voyagent en France, qui connaissent très bien la France ou qui ont vécu en France. Mais on a aussi de plus en plus de Français qui viennent au marché. De plus en plus. Donc, des gens qui viennent vraiment, comme vous l'avez très bien dit, qui n'ont pas eu l'occasion de rentrer en France depuis longtemps et qui viennent passer la matinée au marché pour avoir un petit peu la sensation d'être à la maison, de se faire plaisir, d'acheter des produits qu'on ne trouve qu'au marché. Des fraises Tagada, des princes, manger une bonne crêpe. Et puis aussi se retrouver avec la communauté française, discuter, boire un café. Mais c'est vrai que les Australiens, les gens qui ont voyagé en France nous disent « on adore votre marché parce qu'on a l'impression d'être dans un village en France ». Là, notre dernière addition dans l'équipe, c'est on a maintenant une rôtisserie. Donc ça, c'était mon rêve d'avoir une rôtisserie. J'ai finalement trouvé quelqu'un qui fait du poulet rôti sur le marché, sur place, avec les petites pommes de terre en dessous, parfumées avec des herbes de Provence, du beurre, de l'ail. Donc ça a été la dernière addition et ça a été les gens ont adoré, nous ont dit « ah ben alors ça, c'est vraiment le produit typique que l'on retrouverait sur un marché français et qu'on ne trouve pas forcément en Australie. »
Ah, je vous confirme, c'est vrai que dans tous les marchés français, on a toujours une rôtisserie quelque part. Toujours, avec les pommes de terre juste en dessous du poulet, avec tout le gras qui tombe dessus, c'est super bon, c'est pas du tout light.
Exactement.
Mais c'est délicieux.
Ça, c'était mon rêve. Je rêvais parce que quand je suis rentrée en France au mois de janvier, j'ai fait beaucoup de marchés français pour voir un petit peu ce qui se passe en France sur les marchés. Et en effet, il y avait des rôtisseries. Et je disais, ah là là, ce serait bien qu'on ait une rôtisserie. Puis j'ai trouvé quelqu'un. J'ai vraiment insisté. Je les ai travaillés au corps pour les convaincre de venir. Et puis en fait, quand ils sont venus, ils étaient sold out à 11h. Ils n'avaient plus rien. Ils se sont fait dévaliser.
D'accord. Il y a combien d'exposants, combien de vendeurs à peu près sur votre marché?
En moyenne, on a 35 vendeurs, sachant qu'après, là, on est en hiver, donc c'est un petit peu plus calme parce qu'il y a la pluie, il y a le Covid, donc on a régulièrement des vendeurs qui attrapent le Covid ou qui peuvent pas venir. Mais après, quand on s'approche de Noël et des beaux jours, on peut monter jusqu'à 40-45 exposants par marché, donc c'est quand même assez important.
Alors, mis à part les histoires de Covid, vous avez un marché, vous êtes la seule en Australie d'organiser un marché tous les 15 jours. C'est bien ça?
Alors en fait, en Australie, il y a beaucoup d'événements français qui sont une fois ou deux par an et principalement au mois de juillet pour les événements pour Bastidée le 14 juillet. Donc c'est un gros festival. Mais en effet, et sans arrogance aucune, hein, j'essaye de rester, hein, mais c'est la vérité. En fait, il n'y a pas de marché régulier français. On est le seul marché régulier français dans toute l'Australie. Il n'y en a pas d'autre. Et en plus, maintenant, avec l'équipe qui s'est constituée au cours des deux dernières années, c'est vrai qu'en termes de produits français, bon, en fait, j'ai tout le monde, tous les vendeurs de produits français du New South Wales sont présents à mon marché. Donc, c'est vrai qu'en termes d'offres, on peut pas faire mieux. Il y a tout. Il y a tout ce que vous pouvez attendre quand vous allez sur un marché français.
Et en termes d'ambiance, qu'est-ce que vous avez réussi à recréer, par exemple, par rapport à un marché français?
Alors, l'ambiance aussi, c'est vrai que c'est ça qui fait la différence par rapport à d'autres marchés. L'idée, c'est vraiment de transporter nos visiteurs, nos clients en France, de leur donner la sensation d'être dans un marché de village du dimanche matin. Donc, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un lieu qui est superbe. On est dans un bâtiment historique avec un petit cottage qui a été construit au début 18e. Alors vraiment dans les early days, vous voyez, quand tout s'est construit en Australie. Et avec des jardins, des grands arbres, des fleurs, donc c'est magnifique. Et donc, dès que vous rentrez dans le marché, vous avez vraiment l'impression d'être dans un petit village, sur la place du village, avec on installe des tables avec des jolies nappes, des bouquets de fleurs, des parasols. On a de la décoration avec des vélos de couleur, avec des paniers de fleurs sur le vélo. On a des tableaux peints sur des thèmes français, donc chocolat meunier, orangina. Donc, j'ai vraiment insisté sur l'aspect esthétique. On a une petite terrasse qui est abritée avec des petites nappes à carreaux rouges et blanches, des canapés. Donc c'est vrai que quand les gens viennent, ils viennent passer la matinée. C'est pas juste pour faire les courses. C'est vraiment une expérience. On s'assoit, on prend une crêpe, on fait ses courses, on discute, on se retrouve avec des amis. Donc, il y a vraiment... Les gens nous le disent, d'ailleurs, nous disent, quand on vient à votre marché, on a l'impression d'être en France, sans le décalage horaire. Donc, ça, c'est le plus beau compliment parce que c'est au-delà de l'aspect vente et produit. C'est vraiment de créer une bonne expérience, en fait, pour nos visiteurs.
Et vous vous trouvez où par rapport au centre-ville, au CBD de Sydney?
Alors, on est à Willoughby. Donc, c'est vraiment à 10 minutes du pont de Sydney en voiture, c'est direct. C'est pas excentré, hein. On est à 10-15 minutes du centre-ville. Sachant que la communauté française à Sydney, il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce coin-là, à Willoughby, Killarney Heights. Donc, c'est juste à côté. C'est assez facile d'accès.
D'accord. Merci beaucoup, Solveig.
Bah avec plaisir. Merci de m'avoir interviewé ce matin.
Et au plaisir de vous rencontrer au marché. Et je vous dis à très bientôt.
À très bientôt, Thomas. Merci.
Il est 13h56 sur SBS French. C'est l'heure du rappel des titres. « La prime Covid d'un montant de $750 réinstaurée jusqu'à fin septembre, c'est l'annonce que vient de faire Anthony Albanese ce matin. La rencontre controversée entre le président américain Joe Biden et le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman, 18 contrats signés sous l'ombre de l'affaire de l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi, la guerre en Ukraine et la localité de Vinnytsia qui compte ses morts, au moins 23 civils tués dans le bombardement de son centre-ville. La Russie assure avoir visé une cible militaire. La France, qui s'apprête à commémorer un moment douloureux de son histoire, la rafle du Veldiv, c'était il y a 80 ans. 13 000 juifs ont été arrêtés, très peu reviendront des camps. Et enfin, en sport, la troisième étape du Tour de France qui voit la victoire du Danois Mads Pedersen. Le maillot jaune reste sur les épaules de Jonas Vingegaard devant le Slovène Tadej Pogačar. Le Français Romain Bardet, toujours quatrième au classement général. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Je suis Marianne Murat. Votre prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est demain. Même fréquence, même heure. Un journal présenté par Jean-Noël Ducasse. Si vous souhaitez réécouter cette émission en intégralité ou alors seulement le journal, les sports, les chroniques, vous pouvez vous rendre sur notre site internet sbs.com.au/french, notre page Facebook SBS French, Spotify, Google Music, Apple Music, toutes les plateformes de podcast. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt. Au revoir. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.